Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. On est déjà en mode salon. En effet, le 5 mai prochain se tiendra le salon Technovision, qui est le plus grand salon dédié aux technologies adaptées pour les personnes vivant avec une perte de vision partielle ou totale. Canalem, évidemment, y sera, et Eric Hull du Manware vient nous en parler un peu plus tard à l'émission. Aube Savard nous propose sa chronique Toujours accessible, ou plutôt Tourisme toujours accessible. Et on va non seulement parler de l'Europe de l'Ouest accessible, mais aussi de d'autres destinations. C'est même quelque chose comme ces destinations chouchous. Vous entendrez ça un peu plus tard à l'émission. Finalement, si vous êtes un fidèle, vous savez qu'en général, on propose plusieurs questions d'affaires publiques. Alors, on n'est pas en reste encore aujourd'hui. En table ronde, la dernière recherche sur l'incapacité présentée par l'Office des personnes handicapées du Québec et aussi Laurence Pérousseau, directrice générale de la CEPS, qui réagit spécifiquement sur les questions, les statistiques, la réalité en éducation et au travail. Dans quelques instants, le curateur public du Québec, Normand Jutras. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. On ne sait pas toujours ce que la vie nous réserve. Hein? Les situations de handicap invalidantes peuvent survenir dans la vie. Peut-être que aussi c'est au départ de cette vie-là qu'on vit avec, mais il reste qu'il faut continuer de protéger nos droits et nos intérêts. Évidemment, il existe une loi et, bien sûr, le protecteur, j'allais dire pas du citoyen, là, mais le curateur public, pour y arriver. Il est avec nous, Normand Jutras. Bonjour, monsieur le curateur.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être là. D'abord, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, quel est votre rôle exactement dans la protection des personnes inaptes et de leurs biens?
Le curateur public, c'est l'organisation qui a le mandat, en vertu de la loi sur le curateur public, de voir à la protection des personnes inaptes, défendre leurs intérêts et défendre leurs droits. Mm-hmm. Alors, c'est un mandat confié par le gouvernement à un individu qui, en l'occurrence, s'appelle Normand Jutras et oui. qui doit donc voir à la protection de ces personnes-là. On entend par personne inapte, c'est une personne qui est incapable de s'occuper d'elle-même mm-hmm. ou incapable de s'occuper de ses biens ou les deux à la fois.
Voilà. Et donc, ça peut être toutes sortes de situations de handicap, mais souvent, on entend déficience intellectuelle, peut-être état de démence ou peut-être santé mentale, etc. C'est souvent ces situations-là qui nous amènent à faire appel au curateur public.
Oui, en fait, ça serait parti de la façon suivante. Là, les personnes dont nous nous occupons, à 40%, ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mm-hmm. J'arrondis les chiffres. Là, 30% des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mm-hmm. 20% maladies dégénératives, telles l'Alzheimer, et 10% traumatisé crânien, victime d'un AVC sévère là, ou différentes autres causes.
Donc, on
Mais
voit
ce
le
qui
spectre,
est particulier, ouais. ce que je veux porter à votre attention, je vous dis 20% de notre clientèle, ce sont des personnes atteintes, entre autres, de l'Alzheimer. Mm-hmm. Mais par contre, en raison du vieillissement de la population, au cours des dernières années, les nouveaux dossiers à chaque année, dans une proportion de 50%, ce sont des cas de maladies dégénératives.
Oui, voilà. Puis évidemment, le nombre de personnes dont vous avez la charge augmente d'année en année.
Oui, ah oui, on a depuis 10 ans, on parle d'une augmentation de 2% par année, là, bon an, mal an. Ça ne se dément pas. Mm-hmm. Et la raison est fort simple, vieillissement de la population, plus de personnes âgées, plus de personnes susceptibles d'avoir une maladie dégénérative.
Et donc, pour que les gens comprennent bien, on voit ce que la vie peut parfois nous réserver, hein, bon, avec ce vieillissement dont vous parlez, tout ça, mais il existe quand même deux modalités importantes dont vous êtes responsable, la tutelle et la curatelle. C'est quoi les différences pour que les gens comprennent bien?
En fait, on parle de curatelle quand l'incapacité est totale et permanente. Mm-hmm. On parle de tutelle quand l'incapacité est partielle ou temporaire.
Okay.
Alors, c'est la distinction entre les deux. Il y a les régimes privés et les régimes publics. Les régimes privés, nous, on incite toujours les proches à accepter la charge de tuteur ou de curateur.
Oui, c'est important, d'ailleurs. C'est en premier lieu qu'ils sont appelés là,
oui,
à
oui,
aider.
Oui, parce qu'on considère que la personne va être mieux servie par quelqu'un qui la connaît, qui l'aime, qui connaît son histoire, ses goûts, ses préférences. Mais quand ce n'est pas possible, quand la famille ne veut pas prendre la charge ou ne peut pas, et il y a toutes sortes de raisons qui peuvent intervenir, à ce moment-là, la personne, par un juge de la Cour supérieure, est confiée au curateur public.
Mm-hmm. Donc, c'est vraiment en dernière instance là, que c'est l'État qui prend totalement en charge les intérêts ou même les biens de la personne.
Oui. Alors, quand la personne nous est confiée par un juge de la Cour supérieure, nous, à ce moment-là, on prend en charge de la personne, on fait l'inventaire de ses biens, l'inventaire de ses revenus, et on voit, là, au paiement de ses dépenses, là, tout au cours des années, au cours desquelles cette personne-là sera sous la responsabilité du curateur public.
Écoutez, il y a eu dans les derniers mois, depuis novembre, en fait, un projet de loi, puis des changements à vos mandats. Bon, les groupes de défense de droit n'étaient pas tous heureux, disons, des changements proposés, notamment pour ce qui est du conseil de famille, qui peut être composé de moins de membres. Donc, ça veut dire que il y a peut-être moins de gens qui sont... qui s'occupent de voir aux intérêts des personnes. Puis, bon, les groupes de défense de droit, notamment santé mentale, est inquiet. Comment vous avez reçu ces changements-là, Normand Boucher?
Normand Justras,
je suis vraiment désolé, monsieur.
Non, il n'y a pas de quoi. Non, écoutez, premièrement, d'abord, il faut dire que ce projet de loi-là, il est en marche.
Il
n'est toujours pas adopté. On attend une convocation là, en commission parlementaire pour entendre les groupes qui veulent exprimer leur opinion par rapport à ce projet de loi-là. Mm-hmm. Mais en fait, ce projet de loi-là, nous, on veut s'adapter. On veut adapter la loi à la réalité de 2017. On le sait, les familles sont moins nombreuses qu'auparavant. Les familles sont plus dispersées. Il y a de plus en plus aussi de personnes seules, non seulement seules, mais isolées. Oui. Alors, parfois...
Oh oui, on dit une personne sur deux au Québec, hein, qui est seule, c'est immense.
C'est ça, Alors, de sorte que parfois, on n'est pas capable de constituer l'assemblée de parents et amis. Mm-hmm. Il n'y a pas suffisamment de personnes dans l'entourage ou encore les personnes ne veulent pas se présenter. Alors, c'est pour ça que nous, on veut s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ce que l'on constate et ce que les Québécois veulent, c'est qu'ils veulent, advenant leur inaptitude, ils veulent être représentés par quelqu'un de leur famille, par un proche. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal, là, c'est tout à fait de bon aloi. Alors, encore là, nous, on s'adapte à cette réalité-là et ce que l'on dit aux familles, aux proches, si vous acceptez la charge, le curateur public va vous accompagner dans l'acceptation et l'accomplissement de cette charge-là. Mm-hmm. Entre autres, en conseillant les personnes, en étant davantage présent auprès d'eux, parce que souvent, ces personnes-là peuvent trouver la tâche lourde.
Oui, bien
alors,
sûr.
Alors, nous, ce qu'on leur dit, ben oui, vous le faites par amour pour quelqu'un que vous aimez, mais cependant, vous avez besoin de soutien. Alors, nous sommes là, et sur le plan juridique, et sur le plan... des fois, ce n'est qu'un soutien moral dont les personnes ont besoin, à savoir, ils deviennent un peu découragés, là, ils trouvent la tâche lourde. Alors, on leur dit, bien, on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir.
Monsieur Normand Jutras, est-ce que vous considérez avoir les ressources pour arriver à ça? Parce qu'on le dit, la tendance va vers dans le sens d'une augmentation des cas dont vous aurez à vous occuper. Évidemment, la question des conseils de famille, c'est pas facile parce que les gens sont moins facilement mobilisés pour leur famille. C'est triste, même si c'est un peu vrai, c'est parfois difficile quand même. Est-ce que vous allez arriver à protéger les intérêts des personnes compte tenu, même des 650 personnes qui travaillent pour vous, là, mais qui sont peut-être pas encore suffisants, là?
Oui, mais c'est pour ça que moi, et l'année dernière et cette année, j'ai fait des représentations auprès du gouvernement pour que nous ayons davantage de personnel au curateur public. Mm-hmm. Alors, l'année dernière, là, ma demande a été acceptée en partie. Il y a 25 ETC, employés temps complet, là, pour prendre le jargon de convention collective, qui m'ont été accordés. Et pour l'année qui vient, ben, il va y avoir l'étude des crédits là, au cours du mois d'avril.
Effectivement, c'est à la toute fin du mois. Même cette semaine, ça sera peut-être au début mai que les questions du curateur public,
moi, je suis convoqué à l'Assemblée nationale pour le 3 mai.
Pour défendre
les crédits du curateur public. Mm-hmm. Et comme je vous dis, là aussi, j'ai encore une demande là, supplémentaire d'ETC parce que comme je vous le mentionnais au début de notre entretien, et de un, notre clientèle augmente constamment. Et le nouveau phénomène aussi qui se produit chez nous, c'est que les patrimoines que nous avons à gérer augmentent considérablement. Au cours des 5 dernières années, en moyenne, on parle d'une augmentation là, d'à peu près 40 %.
Monsieur Normand Boucher, je suis désolé, Monsieur le protecteur, ni le protecteur, Monsieur le curateur. Écoutez, j'aurais aimé discuter de beaucoup de choses avec vous, mais ce qui est important, les gens qui ont besoin d'avoir de l'information, soit pour leurs proches ou même s'ils souhaitent bien préparer l'avenir, où est-ce qu'on peut se renseigner? C'est quoi la meilleure adresse?
Bien, vous pouvez communiquer avec nous. Là, notre numéro de téléphone au curateur public, c'est, je vous donne le numéro, là, c'est 514-873-4898.
Alors, et sur le web, on peut trouver www.curateur.gouv.qc.ca.
Oui, on a un site web là, qui est bien fait. Où il y a beaucoup de renseignements. Entre autres, on fait la promotion du mandat de protection pour que les gens... Il faut que les Québécois soient de plus en plus conscients que l'inaptitude peut survenir à tout âge.
Exactement.
Trop de Québécois, malheureusement, pensent que l'inaptitude, c'est relié au vieillissement. Mais non, vous pouvez faire un AVC sévère à l'âge de 40 ans, développer des problèmes de santé mentale. Alors, si les gens font leur mandat de protection, bien, alors, à ce moment-là, ils prévoient que, moi, si je deviens inapte aujourd'hui pour demain, j'ai prévu qui va s'occuper de moi et qui va s'occuper de mes biens. Et on fait de plus en plus la promotion de ce mandat.
Bien sûr.
Parce que, à mon avis, c'est essentiel pour les personnes qui peuvent devenir inaptes.
Donc, on le rappelle, le mandat de protection, c'est important. Il faut s'en soucier d'avance pour que le travail avec le curateur public soit plus simple après. Normand Jutras, monsieur le curateur public, merci beaucoup de votre intervention.
Alors, ça m'a fait plaisir.
Organisé par Inca Québec depuis plus de 15 ans, Technovision 2017 aura lieu le 5 mai prochain à Longueuil. Évidemment, Canal M sera présent avec toutes sortes d'acteurs des technologies, de l'adaptation et de l'information aux personnes aveugles. Donc, avec nous, pour en parler, Éric Houle de Humanware, qui fera une conférence d'ailleurs à Technovision. Donc, bonjour, M. Hull.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ben oui, ça va bien. J'espère que ça va bien vous aussi. Ça n'a pas été trop difficile de se rendre à la station?
Pas du tout.
OK, tout va bien. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter le salon Technovision, qui est, rappelons-le, le plus grand salon dédié aux technologies adaptées là, pour les personnes qui vivent avec une perte de vision partielle ou totale?
Bien, ça donne une chance aux gens de venir voir des nouvelles technologies sur comment ils peuvent avoir accès à l'information. C'est ça qui est important, dans le fond, c'est ça qu'on fait. Puis pendant la conférence, pendant le salon, oui, il y a des kiosques, des gens qui fabriquent des produits, qui développent des produits, mais il y a aussi plein d'autres choses que les gens peuvent avoir là, au niveau de l'aide, puis ça peut être psychologique ou dans la vie de tous les jours aussi.
C'est ça, effectivement. Et il y a même, semble-t-il, des possibilités de faire des tests sur place, des dépistages gratuits de maladies oculaires, par exemple. Et puis, il y a évidemment des conférences, des gens qui, comme vous, vont prendre la parole. Peut-être avant qu'on aille plus loin, Eric Hull, c'est pour qui ce salon-là?
Bien, ça s'adresse principalement aux gens qui sont en perte de vision ou en situation là, de déficience visuelle, mais aussi aux professionnels. Ça peut être aussi aux gens qui travaillent là, au niveau des cliniques d'optométrie, aux professionnels de la santé aussi visuelle, parce qu'il y a plein de choses à voir, des nouveautés, ça va vite la technologie.
Oui, c'est très rapide. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être à l'avant-garde, c'est un moyen de l'être, le voir ce qu'il y a exactement maintenant.
Absolument.
Bon. Écoutez, peut-être qu'on peut tout de suite parler de ce que vous proposez, donc aux côtés de plein d'autres groupes, là, parce que Canal Elm sera là, Ami Télé, il va avoir Point par Point, Optolec, la Fondation Pierre Brisebois, Canada Dialogue, enfin bref, des technologies qu'on entend, qu'on retrouve là, souvent quand on est une personne aveugle. Mais vous, Eric Hull, qu'est-ce que vous allez présenter exactement pour HumanWear?
Bien, nous, HumanWear, ça fait 25 ans qu'on existe, on est situé ici au Québec. Mm-hmm. On est probablement la plus grosse compagnie au monde en recherche et développement au niveau d'adapter des aides techniques pour les gens qui ont un handicap visuel. Fait que ça, des fois, les gens ne le savent pas. Quand même, c'est une compagnie québécoise. Alors, on est très chanceux d'avoir ça ici. Ça,
oui, c'est-tu à Drummond, d'ailleurs?
À Drummondville, c'est plus le service à la clientèle. Ah. Mais la recherche et le développement, elle est située à Longueuil. On a deux bureaux ici au Québec. Okay. Alors, nous, ce qu'on va présenter, c'est nos nouvelles technologies au niveau de Technovision. Mais comme je vous dis, ça faisait 25 ans là, qu'on développe des technologies adaptées. Là, donc, on est quand même pas mal avant-gardiste. Là.
Oui, et donc, il y a même une dernière innovation à laquelle vous avez travaillé qui concerne, entre autres, le braille. Peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots.
Bien, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est un produit qui existait un peu déjà, mais qu'on appelle un preneur de notes. Un preneur de notes, une personne qui est aveugle permet, un peu comme vous, d'avoir accès à son calendrier, à Internet, à écrire des notes, ses courriels. Mais là, ce qu'on a fait dans la nouvelle génération, c'est qu'on a ouvert un peu grand public, c'est qu'on a développé, dans le fond, c'est une tablette qu'on a rendue adaptée. Hein? On est le premier certifié au monde Google. Donc, on a développé une tablette adaptée avec des cellules braille et une synthèse vocale. Fait que ça permet aux gens de tout faire
donc,
avec la tablette.
On a tout avec la tablette.
Exactement.
C'est pas juste un preneur de notes, il y a la synthèse vocale, tout est là au fond.
Absolument.
Et donc, pour l'étudiant, pour le travailleur, travailleuse, on peut utiliser ce type de produit-là.
Absolument. Mm-hmm. Absolument.
Bon. Maintenant, revenons à cette conférence. Donc, les gens qui aimeraient y participer, parce que rappelons que vous êtes un des commanditaires importants de l'événement Technovision. Les gens qui veulent y aller, comment on fait, là?
C'est à l'hôtel Sandman, c'est juste à côté du métro Longueuil. Fait que c'est super facile là, d'avoir accès. D'ailleurs, l'INSEA font toujours ça à cet endroit-là pour que ce soit le plus facile d'accès. Parce que beaucoup de gens, vous comprenez que les gens qui viennent nous voir sont des gens en perte de vision. Fait que c'est des gens qui ne conduisent pas. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que ça prend un endroit facile d'accès. C'est juste à côté là, du métro Longueuil. Là.
Ouais,
c'est super facile.
Le métro Longueuil, c'est le deuxième achalandé du réseau à peu près. C'est un bon endroit où aller.
Exactement.
Mais donc, pour se rendre exactement, c'est situé où l'édifice?
Ah, c'est juste à côté, quand on sort du métro, là, du côté, c'est juste à gauche là, du métro Longueuil. Quand on sort, on s'en va vers la gauche, l'hôtel Sandman, il est juste là. Là. C'est je vous dirais une centaine de mètres à peu près.
OK. Et donc, moi, je vais vous donner, j'ai même pas l'adresse devant moi. Donc, c'est l'hôtel Sandman. Rappelons que c'est gratuit pour les clients d'Inca, 8 $ pour le grand public, 5 $ pour les étudiants et les personnes de 55 ans et plus. Pour plus d'informations, on se réfère à inca.ca. Peut-être la chose qu'il ne faudrait pas manquer lors de ce salon Technovision, Eric Hull, ça serait quoi?
Bien,
En plus de votre conférence.
Ben, y a plusieurs conférences aussi. Tantôt, je regardais, c'est sûr qu'il y a celle de HumanWare, mais il y en a une, je pense, qui est importante. Les gens qui sont en perte de vision, c'est un deuil. Hein? Puis des fois, les proches ou les gens qui le vivent eux-mêmes, des fois, c'est pas toujours facile. Fait qu'il y en a une conférence, j'ai vu que là-dessus, vous voyez, il y en a pour tout. Oui, il y a des technologies adaptées, mais il y a aussi de l'aide psychologique. Comment on peut vivre avec ça? Ouais. Vous savez, moi, je suis né comme ça, hein, avec un handicap visuel, mais quand on arrive à 65, 70 ans...
Ça survient, c'est un peu un choc.
Là, c'est pas la même chose.
Donc,
là,
ça s'adresse autant aux gens qui ont toujours vécu ou qui ont vécu avec une basse vision depuis longtemps et même aussi aux personnes qui doivent conjuguer avec ça comme nouvelle réalité. Donc, c'est pour tout le monde. Oui. On rappelle pour plus d'informations, un cas... .ca. Merci Eric Hull de HumanWare.
Merci beaucoup, puis je vous attends en grand nombre.
Pallier son handicap en voyage, il faut se renseigner et s'adapter, dit Aube Savard, notre chroniqueuse Tourisme Accessible. Bonjour Aube.
Bonjour.
Très content de te réentendre à l'émission.
Donc... Pareillement.
Ah bon, ben c'est heureux comme ça quand on se retrouve avec plaisir. C'est comme dans une destination surprise et heureuse.
Voilà, exactement.
En fait, pour que les gens nous suivent, lors de la chronique du mois dernier, on avait vu l'importance de bien connaître notre niveau de stress pour choisir notre destination, parce que c'est souvent déterminant, et il est préférable parfois de choisir une destination en fonction, disons, de son niveau d'accessibilité, parce que ça peut occasionner autrement beaucoup de stress ou moins de stress, tout dépendant. Mais... vous, cher Aube Savard, vous avez plusieurs destinations en tête par rapport à leur accessibilité. Et donc, j'aimerais que vous nous en parliez un peu, que vous en parliez aux gens qui nous écoutent. On commence peut-être avec les États-Unis.
Oui, bien, les États-Unis, on le sait bien, c'est la destination par excellence pour les personnes handicapées. Tout est fait... pour la voiture, déjà en premier lieu, et donc la voirie est très, très bien organisée, très bien construite pour les personnes handicapées, contrairement, par exemple, à la France, où sur les trottoirs, on va se retrouver avec des poteaux, des voitures, toutes sortes de choses qui nous entravent le chemin.
Mais il faut choisir, là. En ce moment, aux États-Unis, il faut contourner les manifs anti-Trump, puis en France, c'est les manifs anti-Le Pen, là. Ça dépend. C'est un choix, ça aussi, qu'on peut faire comme voyageur.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il faut y aller avec nos valeurs quand même, c'est important.
Voilà, c'est ça. On parle aussi un peu plus au nord, en Europe, l'Angleterre. À quel point on peut bien vivre un voyage en Angleterre, Aube Savard?
L'Angleterre, en fait, c'est vraiment un pays idéal aussi. Le transport, de manière générale, est super accessible. C'est très facile d'entrer dans les boutiques, d'entrer dans les bâtiments. Il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Les États-Unis, comme l'Angleterre, et pareil pour l'Australie, ce sont trois pays où les lois par rapport à l'accessibilité ou à la discrimination sont les plus vieilles. Donc, elles datent des années 90. Donc, il y a déjà un bon bout de chemin qui a été fait
comparativement
à d'autres pays.
Ben oui, écoutez, c'est heureux de rappeler ça. Tristement, il faut... remarquez que c'est les pays anglo-saxons qui sont un peu à l'avant-garde, ou à tout le moins le Canada anglais, on pourrait même ajouter ici.
Oui, bon. Malheureusement.
Ben, si on a envie d'un peu de soleil ou d'une autre langue que l'anglais, on peut aller en Espagne, c'est ça?
Oui, oui, l'Espagne a fait beaucoup, beaucoup pour l'accessibilité. J'ai une copine, en fait, qui y est présentement et puis elle-même, elle est subjuguée par tant d'accessibilité. Et pourtant, elle n'est pas handicapée elle-même, mais elle est sensibilisée à ça. Barcelone, qui a reçu les Jeux olympiques, s'est montrée, a développé une belle accessibilité aussi. Et la Slovénie.
Ah, c'est votre coup de cœur, ça.
Ah, c'est mon coup de cœur. Ça, c'est... L'an dernier, je suis partie 4 mois en Europe et la Slovénie, c'est vraiment le pays qui m'a le plus charmée. Mm-hmm. Ljubljana, qui est la capitale, c'est une petite ville avec un charme fou, avec une rivière, avec des jolis ponts qui passent à travers. C'est une ville piétonne qui a été revue pour l'accessibilité. Donc, le trottoir et la rue sont au même niveau. Il y a des véhicules électriques accessibles dans le centre-ville si on a besoin, si on est un petit peu tanné de se pousser, là.
Oui.
Ensuite, pour le château, on peut y aller avec un téléphérique et le téléphérique est gratuit pour la personne handicapée et son accompagnateur.
Ah, oh, mon Dieu! Le téléphérique qui oui. surplombe vraiment des grands pans de certaines villes, en fait... Mm. Ah, c'est pourquoi ça a été délaissé ici? Est-ce qu'il y en a déjà eu là, autour de Expo 67, mais est-ce que vous en avez vu ailleurs, des téléphériques comme cela?
Il y en a ailleurs, mais ils ne sont pas toujours accessibles.
Ah oui, c'est ça, voilà.
C'est ça le truc. Mais de tête, là, ça ne me vient pas à l'idée. Je m'excuse.
C'est bon, il n'y a aucun problème. Maintenant, écoutez, on a entendu ces destinations heureuses du point de vue de l'accessibilité. Si on est stressé par le voyage ou que notre situation de handicap nous limite beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre stress, selon vous, observant?
Bien, la première chose, en fait, qui nous stresse, c'est l'inconnu. Donc, comment on fait pour que ça ne soit plus inconnu? Bien, c'est qu'on se renseigne. Donc, se renseigner, faire appel à des spécialistes de voyage sur mesure, ça peut être aussi une bonne solution. Le guide des handis voyageurs du petit futé dont j'ai parlé la dernière fois propose d'ailleurs plusieurs spécialistes français de voyage sur mesure.
Ah oui.
Donc, quand je parle de voyage sur mesure, je parle de vraiment des circuits qui sont organisés. Donc, vraiment un peu comme un voyage organisé, mais pas pour un groupe. Mm-hmm. C'est-à-dire vraiment pour une personne ou sa famille, ses amis, peu importe, donc des petits groupes. Donc, c'est vraiment fait en fonction des envies de la personne. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Malheureusement, on n'a pas des offres déjà toutes faites ici au Québec et c'est vraiment déplorable.
Ouais.
On a le service complice de Kéroul
ouais.
qui sensibilise les agents de voyage dans la manière d'offrir un bon service aux personnes handicapées, mm-hmm. mais on n'a pas des voyages tout organisés.
Mais c'est ça aussi
qu'il
y a une culture un peu différente. On travaille encore à ce qu'il y ait une accessibilité collective. Donc, c'est sûr que le spécialisé, peut-être, est moins au rendez-vous. Aube Savard, écoutez, ça tire déjà sa fin,
déjà?
Mais on pourra peut-être parler des aides à la mobilité oui. dans une fois ultérieure, parce qu'on peut les utiliser, même les louer à l'étranger, c'est ce que vous dites.
Oui, tout à fait.
Et si on va avoir des conseils d'ici là, on vous retrouve où, Aube Savard?
Sur voyageramobilitéredite.com ou on peut toujours m'écrire à aubesavard@icloud.com.
Merci pour nous faire voyager encore.
Ça fait plaisir.
À bientôt, Aube.
À bientôt.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Derrière les chiffres, il y a beaucoup de gens, notamment les personnes en situation de handicap, mais c'est quand même important de bien comprendre comment se dessine la réalité. Et pour ça, il faut quelques enquêtes. Rappelons que l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2012 et ses nombreux volumes est maintenant disponible. C'est l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, qui nous le rappelle. Donc, on va s'attarder à ça et pour y arriver, Lucie Dugas, conseillère experte à l'évaluation et à la recherche de l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, est avec nous. Bonjour, Madame Dugas.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être là.
Oui, ça fait plaisir.
Pour peut-être comprendre ou avoir un surcroît de compréhension de la réalité des jeunes, des personnes qui sont aux études, des chercheurs, chercheuses d'emploi, il faut appeler Laurence Pérousseau, directrice générale de l'ex-ACEPS. En fait, vous avez tout le temps entendu ACEPS, mais on vient de changer de nom. Donc, enfin, on va au moins saluer Laurence Pérousseau. Bonjour, Laurence.
Oui, bonjour Benoît. Écoute, je veux juste te dire que justement, on est encore à KEPS parce qu'on fait ça compliqué d'apprendre une autre affaire. C'est les mots à l'intérieur de AKEPS qui ont changé.
Donc, les nouveaux mots sont Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire.
Oui, ce qui donne encore AKEPS.
Et qui représente un peu mieux ce que vous défendez depuis des années.
Exact.
Bon. Alors, si vous permettez, Laurence, on va d'abord s'adresser à Mme Dugas, parce que c'est chaud, c'est 8 volumes ou à peu près. Enfin, il y en a qui restent à publier encore. Donc, Lucie Dugas, parlez-nous d'abord de l'ampleur ou de l'importance de cette enquête canadienne sur l'incapacité.
L'enquête canadienne sur l'incapacité, c'est une enquête qui est réalisée par Statistique Canada, qui est réalisée aux 5 ans. Habituellement. Donc, la première, c'est en 2012. Il y en a une qui est en cours de collecte en 2017. Donc, on va être capable, dans quelques années, d'avoir aussi une évolution de la situation des personnes handicapées. C'est une enquête qui vise tous les adultes de 15 ans et plus qui vivent en ménage privé au Canada au moment du recensement de 2011.
Donc, ça veut dire que les gens en CHSLD ne sont pas considérés dans cette étude?
Non, malheureusement, les gens qui vivent en institution ne font pas partie de l'enquête, comme aussi les personnes qui vivent dans les autres hôpitaux en prison, mais, par exemple aussi les gens qui vivent des Premières Nations ne sont pas inclus.
Okay.
Mais c'est quand même près de 97% de la population qui est visée par l'enquête.
Je me pose la question, vous qui êtes à l'OPHQ, qui voulez défendre ou à tout le moins qui représentez les intérêts pour tous ces groupes, même ceux qui ne sont pas à la maison, domicile, est-ce qu'il y a des moyens qui sont prévus pour comprendre ce que vivent comme réalité les personnes en CHSLD, les personnes autochtones en situation de handicap ou autres? Est-ce qu'il existe d'autres études parallèles?
Pour les Autochtones, il y a peu de données qu'on peut suivre pour particulièrement au niveau des personnes avec incapacité. Pour la situation dans les CHSLD, il y a quand même des données administratives du ministère de la Santé qui nous permettent peut-être un peu de suivre.
Entre vous et moi, souvent, ça prend des demandes d'accès à l'information, là, pour l'avoir déjà fait moi-même. Mais est-ce qu'il existe quelque chose d'aussi systématique, accessible pour le grand public?
Je crois pas, non. C'est vraiment des analyses. On fait des demandes auprès du ministère pour avoir accès à certaines données qui nous permettent de suivre certains indicateurs au niveau de la population des personnes qui vivent en CHSLD. Mais il n'y a pas d'enquête qui nous permet d'avoir les mêmes données que celles qu'on peut avoir avec l'enquête canadienne sur l'incapacité.
Parfait. Il faut dire que cette enquête-là, c'est un véritable paquebot. Hein? On a beaucoup d'informations collectées. Les gens pensent que ce n'est pas important, là, mais c'est pas mal fondamental comme étude. D'ailleurs, ça faisait un moment qu'on n'avait pas accès à des données. C'est quand la dernière fois où on a des données aussi précises sur l'incapacité au Canada?
Au Canada, ça a été la dernière enquête qui a été réalisée. C'est l'enquête, elle a changé de nom, mais c'est un peu la même enquête. La méthodologie était différente, mais c'était l'enquête sur la participation et les limitations d'activité
qui
a été faite en 2001 et en 2006.
C'est ça.
Et d'ailleurs, l'Office avec l'Institut de la statistique du Québec, on avait publié un document qui présentait les résultats de ces deux enquêtes-là qu'on appelait « Vivre avec une incapacité au Québec ».
Oui, effectivement. Puis pour ceux comme moi qui ont été très intéressés par la question, c'est des données qui datent, mais qui sont si importantes, qui nous permettent de voir, bon, si l'incapacité peut amener à des obstacles à l'inclusion, à la participation sociale, comme vous le dites, que ce soit au travail ou à l'école. Mais c'est important d'avoir ces données-là. Là, on a des belles données. Puis il y en a d'autres qui vont venir. Hein? Les 8 tomes ne sont pas encore tous publiés.
Non, ça va venir d'ici la fin du printemps. On a l'intention de tous publier les 8 volumes de la collection.
Bon.
Là, actuellement, aujourd'hui, on en a 3 qui sont mis en ligne, rendus disponibles sur le site de l'Office. Et les 5 autres vont suivre au courant d'ici la fin du printemps, je dirais en juin à peu près.
Donc, vous travaillez fort pour rendre ça disponible et accessible aussi?
Oui,
bon, écoutez, venons maintenant aux faits saillants, parce que là, à part quelques gens là, qui ont pataugé dans les statistiques comme moi et d'autres, on n'a pas tant de fun que ça. Si vous permettez, quels sont les faits marquants qui ressortent de cette enquête canadienne sur l'incapacité, Mme Dugas?
On peut voir en 2012, le taux d'incapacité au Québec est d'environ 10 %. Donc, c'est une personne sur 10 au Québec qui a une incapacité.
OK. C'est important quand même, mais c'est un peu moins que l'éclave, là, une autre enquête. Mais donc, le chiffre magique au Québec, c'est 10 %.
Ben oui, c'est ça. L'éclave, c'est ça. C'est une enquête intéressante qui a été réalisée par le ministère de la Santé en collaboration aussi avec plusieurs ministères, dont l'Office.
Mm-hmm.
Je dirais que ces deux enquêtes-là sont vraiment des bonnes enquêtes. La différence, c'est que c'est la méthodologie qui fait en sorte que l'éclave a été identifié plus de personnes qui ont une incapacité légère que des enquêtes comme l'EPLA et l'ECI.
Donc, l'ECI, pour le rappeler, c'est l'enquête canadienne sur l'incapacité, celle dont on parle. Donc, on s'intéresse plus aux gens qui ont déficience modérée ou sévère, donc qui vivent de graves situations d'handicap, là.
Oui, bien, en fait, dans l'ECI, c'est ça, c'est la méthodologie qu'on utilise, c'est des questions d'identification de l'incapacité qui permettent d'identifier 10 types d'incapacités. On a, par exemple, des gens qui ont une incapacité liée à la vision, à l'audition, à la mobilité, flexibilité, à la dextérité, à la douleur, à l'apprentissage, au développement, donc si on parle de TSA, autisme, psychologique et à la mémoire.
OK.
Puis les questions nous permettent vraiment d'identifier des personnes. Quand on parle en cadre comme ça, c'est vraiment des modules de questions qui sont très bien construites. Puis ces questions.
Oui, il y a beaucoup de sociologues embauchés, etc.
Puis, il y a des grosses équipes. Oui. Canada qui travaille là-dessus, ce qui fait qu'on peut dire que les personnes qui sont identifiées dans ces enquêtes-là, c'est des gens qui ont des incapacités significatives et persistantes. C'est sûr que des gens qui ont des incapacités plus légères, qui peuvent être moins, plus ou moins sujettes à rencontrer des obstacles, mais en fait, c'est des gens qui sont potentiellement toutes des personnes qui peuvent être en situation de handicap.
Bon, excellent. Deux faits importants sur la scolarisation et le travail. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez de ces deux aspects-là pour qu'on puisse ensuite aller voir avec Laurence si c'est ça qui se valide sur le terrain. Donc, les personnes avec incapacité qui sont moins scolarisées, qu'est-ce que nous apprend l'enquête là-dessus?
Bien, c'est ça. C'est comme je dirais, c'est pas nécessairement nouveau, là, parce que les enquêtes précédentes, même, sont pas comparables depuis, je dirais, deux décennies, là. Démontre toujours qu'il y a un retard en termes de scolarisation. Les personnes avec incapacité sont généralement moins scolarisées que les personnes sans incapacité. Et on le voit depuis de nombreuses années. L'enquête canadienne sur l'incapacité révèle le même constat. En fait, ici, on voit qu'au niveau global, c'est les personnes avec incapacité, la population. Il y a 35% qui sont sans diplôme d'études secondaires. Si on compare avec les personnes sans incapacité, c'est 20%. Donc, il y a un bon écart. Il y a moins de personnes aussi avec incapacité qui ont un certificat ou un diplôme d'études universitaires comparativement aux personnes sans incapacité.
Donc c'est encore des grandes différences avec la population dite sans incapacité.
Oui.
Mais est-ce qu'on voit une amélioration de la scolarisation chez les personnes handicapées depuis les dernières années?
On avait, avec l'EPLA 2001 et 2006, on avait pu faire un constat où on avait remarqué une évolution favorable du profil là, de scolarisation des personnes handicapées. Malheureusement, avec la nouvelle enquête, on peut pas comparer avec les enquêtes précédentes.
Okay.
Avec la prochaine, on va être capable de commencer une nouvelle série là, pour être capable de voir vers où ça va, si ça s'améliore ou ça stagne ou ça se détériore.
Donc, soyons clairs, ça c'est l'effet Harper, parce que pendant longtemps, il y a eu la coupe du questionnaire long, puis au niveau des statistiques, il y avait moins de ressources, moins d'enquêtes de déployer. Hein, c'est ça, hein?
Tout à fait. C'est exactement au même moment qu'il y a eu l'abolition du recensement long.
Voilà. OK.
Et ça a disparu dans le même.
Vitement, en peut-être une minute, qu'est-ce qu'il y aurait d'important à dire sur l'inclusion au travail? Est-ce que ça va mieux?
Il y a eu une petite amélioration aussi, je disais, en 2001-2006, mais on observe encore un énorme écart dans le taux d'emploi des personnes avec incapacité comparativement au reste de la population. Donc, il y a 39% des personnes avec incapacité qui sont en emploi.
Ah oui.
Comparativement, 72% des personnes sans incapacité. Donc, on voit qu'il y a vraiment encore un écart très important
Donc,
entre les deux populations.
Ça se maintient. Laurence Pirousseau, directrice de la CEPS, qui travaille pour les étudiants en postsecondaire. Vous relevez souvent ça, je pense, que les étudiants après leurs études, les étudiants avec incapacité, ont de la difficulté à intégrer le marché du travail. Comment vous réagissez?
Ben moi, je trouve que oui, l'écart est réel et Et c'est bien les chiffres, ça nous montre qu'il y a un problème. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, les chiffres ne nous disent pas comment régler le problème.
Oui, bien sûr.
Donc, nous, on remarque que les étudiants en situation de handicap ont de la difficulté à intégrer le marché du travail pour plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup d'emplois ne sont pas dans des endroits accessibles.
Bien sûr.
Ça, c'est de base. Après ça, les employeurs sont réticents à engager une personne en situation de handicap parce qu'ils connaissent mal, les étudiants eux-mêmes connaissent mal les ressources qu'ils peuvent aller chercher, genre les contrats d'intégration au travail, tout ça, qui peuvent influencer le choix de l'employeur. Et troisièmement, il y a quand l'employé est en poste, il peut décider de divulguer son handicap s'il est invisible ou pas.
Bien sûr.
Donc, s'il ne le divulgue pas et qu'en cours de mandat, il ne fait pas l'affaire, ben l'employeur peut le renvoyer puisque il n'avait pas déclaré son handicap, donc il n'avait pas reçu d'accommodement.
Mm-hmm.
Donc, il y a tout ça aussi. Il y a la déclaration, la malformation des employeurs qui ont encore des réticences à engager des personnes handicapées alors qu'ils ne devraient pas nécessairement
ben voilà.
avoir peur.
Ben oui, voilà. Mais donc, ces informations-là, pour savoir, parce que vous accueillez des plaintes à la CEPS,
oui.
ou encore vous travaillez avec une table de concertation et des experts qui vous ramènent ces informations-là. Le seul moyen d'avoir accès à ces informations-là, c'est pratiquement la Commission des droits de la personne. C'est quand
Exactement.
On porte plainte. Puis c'est là, il faut le dire, là, aux gens qui nous écoutent, j'ai pas les chiffres devant moi, mais la Commission des droits de la personne a comme premier motif de discrimination le handicap. Et le premier lieu où il y a de la discrimination, c'est le travail. Donc, en tout cas, de ce côté-là, ça a l'air de confirmer ce que vous dites, Laurence Pérousseau. Je reviendrai deux instants à Mme Dugas. Est-ce que vous avez des statistiques à la lumière de toutes celles qui sont diffusées dans l'enquête canadienne sur l'incapacité qui nous montrent la réalité du marché du travail ou de l'inclusion au travail?
On a le dernier volume, le volume 8, va documenter davantage justement la participation au marché du travail chez les personnes avec incapacité, comparé dans certains cas. On fait un peu, dans ce document-là, on présente un peu certains obstacles que les personnes peuvent rencontrer, la situation qu'elles vivent sur le marché du travail. C'est sûr que ça ne va pas dans le détail, le détail dont on parle ici, mais ça peut pister pour améliorer l'intervention, pour améliorer l'intégration des personnes handicapées au niveau du travail.
Bon, très bien. Écoutez, Laurence Pérousseau, Lucie Dugas, on va publier le lien de l'EPHQ qui pointe vers nouvelles données, en fait, cette enquête. Donc, tout le monde qui nous écoutez, que vous soyez en situation d'handicap, que vous soyez intervenant, que vous vouliez faire de la défense de droit, on aura accès aux chiffres. J'aimerais revenir avec Laurence Pérousseau, qui s'occupe des étudiants au postsecondaire. Donc, le travail, c'est manifestement un problème. Est-ce qu'il y a eu, dans le dernier budget, des sommes là, qui venaient aider cette situation-là?
Qui venaient aider le travail?
Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Donc, est-ce qu'il y a eu de l'argent de la part du gouvernement provincial, surtout de là, parce que c'est en général de là d'où viennent les programmes, qui pourraient aider les étudiants et étudiantes avec incapacité qui nous écoutent? Là?
Je vous avoue que je me suis plutôt penchée sur l'investissement de 600 millions en éducation.
OK. Ben c'est un début.
Que sur l'emploi.
OK.
Je ne pourrais pas vous répondre clairement à la question.
Parfait.
Là.
Mais Laurence... Donc, l'inclusion à l'école, ça va de mieux en mieux, mais qu'en est-il alors des investissements en éducation pour les personnes avec incapacité?
On va se parler franchement. Là.
Ouais.
Les investissements de 600 millions, c'est un beau chiffre, 600 millions, mais si on regarde ce que le gouvernement a fait dans les dernières années, c'est-à-dire les coupures massives,
mm-hmm.
on s'en rappelle tous, je pense, de plusieurs milliers de postes.
Des professionnels là, qui étaient directement reliés à l'inclusion. Là.
Exact. Qui mm-hmm. aidaient l'inclusion. On est vraiment loin du compte. Là, on parle de, si on va voir le budget en détail, là, 7200 nouveaux postes, nouvelles personnes pour aider à l'inclusion d'ici 5 ans. Mm-hmm. Et en fait, les autres, ils parlent pas toujours, on n'est toujours pas dans l'inclusion, on parle d'intégration.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc déjà, il y a un bug, d'après moi. Ouais. On est dans la mauvaise voie, mais ça...
Mais les professeurs ont un peu peur du terme.
Ils ont un peu peur du terme, mais c'est parce qu'on leur explique pas bien.
Voilà.
Il n'y a personne qui prend le temps de les former. Mm-hmm. Mais on parle de 7200 postes d'ici 5 ans. C'est à peine plus que ce qui a été coupé.
Ah oui, c'est ça.
Donc, je vois pas...
On n'est pas en situation d'amélioration des ressources, là.
Non, on n'est pas en grande situation d'amélioration, là.
OK.
On est... En fait, ils nous ont redonné l'argent qu'ils nous coupent depuis 3 ans.
Mm-hmm.
Ils nous redonnent l'argent qu'ils ont coupé.
Ah, voilà. Donc, c'est la stratégie. C'est un peu le cas en santé, sauf qu'en santé, on n'a pas mis autant qu'on avait enlevé, mais un peu moins. Bon, enfin, on lâche la polémique pour ça. Donc, écoutez, vous nous avez permis de faire parler un peu deux situations importantes pour les personnes avec incapacité, le travail, l'éducation. Écoutez, Lucie Dugas, conseillère experte à l'évaluation et à la recherche à l'EPHQ, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et si on veut retrouver l'information sur l'enquête canadienne sur l'incapacité et d'autres ressources aussi, on se rend sur votre site. Est-ce que vous pouvez nous le mentionner?
Oui, c'est le site
www.ophq.gouv.qc.ca. Voilà, c'est un rendez-vous. Merci, Lucie Dugas. Laurence Pirousseau, bravo pour votre changement de nom.
Merci.
Donc, on rappelle que vous êtes directrice générale de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire. Et ici, on va avoir plus d'informations. On se rend où, Laurence Pirousseau?
On se rend sur notre site Internet au www.aqeps.qc.ca.
Donc, A, appelez-le ou long pour les gens là, qui ont à l'écrire.
www.aqueips.qc.ca.
Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Puis on souhaite de meilleures statistiques, mais surtout de meilleures réalités pour les personnes avec incapacité.
Oui, je pense que c'est ça le principal.
Allons-y. Merci à vous.
Merci.
J'ai le feu du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. J'ai la lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la foi, mais de celle qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le fleuve, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Simplement comme hier. Étrange comme je t'aime. Étrange comme je t'aime. Prise au piège, j'écoute les tambours de la pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance.
Feu de bas caracole avec Étrange, ça fait du bien de retrouver cet air qu'on a beaucoup aimé. Écoutez, souvent cette émission, on a les mains dans les droits socio-économiques, dans l'avancement, l'inclusion des personnes, mais on oublie parfois que les droits économiques, la possibilité d'améliorer son sort économiquement, c'est aussi une question dont on doit discuter. Et des exemples, il y en a pas toujours des masses malheureusement, mais il y en a. On pense ici à Kim Auclair, qui est une entrepreneure de Québec, qui est aussi présidente de Niviti et auteure d'un livre. Elle vient nous parler de tout ça. Bonjour Kim Auclair.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci d'être là. Rappelons aux gens aussi que vous avez vous vivez une certaine situation d'handicap.
Comment?
Vous avez aussi une certaine situation oui, d'handicap. Ça. Bon, parfait. Alors, c'est pour ça que je vous utilise comme exemple aujourd'hui. Donc, Kim Auclair, vous avez publié un livre qui s'intitule « Dans la tête d'une entrepreneur, mes débuts en affaires ».
Oui.
Pourquoi vous avez décidé de lancer ou d'écrire ce livre?
Moi, je suis sourde de naissance. J'ai une sourdité de sévère à profond de l'oreille, des deux oreilles. Mm-hmm. Donc, dans le fond, puis actuellement, j'entends seulement avec un appareil du côté droit. Et j'ai utilisé le web très tôt dans mon parcours pour parce que j'avais pas nécessairement le physique de l'emploi ou j'avais pas nécessairement aussi les meilleures notes à l'école, mais j'avais plein d'obstacles qui m'empêchaient un peu de travailler sur le terrain, si on peut dire. Alors, le web, pour moi, était une deuxième porte d'entrée. Et j'ai rapidement été capable de prendre ma place, de faire valoir mes compétences que les gens ne voyaient pas nécessairement en me regardant autrement, si on peut dire. Alors, j'ai su prendre ma place dans le monde des affaires, de me tailler quand même une place avec des grandes personnes, des grandes entreprises. Et ça fait 10 ans de ça. Donc, j'ai 32 ans. J'ai commencé à l'âge très jeune, en fait, mm-hmm. et vers 2003-2002. Et voilà. Donc, j'ai voulu tourner la page sur ces 10 dernières années-là.
Oui, qui ont été fortes en obstacles, ouais, mais qui vous ont donné beaucoup d'énergie pour vous rendre jusque où vous êtes maintenant.
C'est ça, j'ai eu beaucoup d'obstacles, j'ai eu beaucoup de défis là-dedans. Puis avec le livre, je voulais donner un nouveau discours. On est habitué d'entendre des discours de millionnaires, des discours oui. de gens qui ont atteint un certain succès. Donc, j'ai voulu donner un discours un peu plus accessible pour donner un coup de pouce. Un coup de pouce à ceux qui veulent se lancer en affaires aussi, mais donner un message de persévérance à ceux qui le sont déjà, puis qui vivent des certains obstacles. Et je pense que ça s'adresse autant, en fait, les gens qui le lisent, autant les gens qui ont un handicap, autant les gens qui sont rendus à un certain niveau dans leur carrière, puis qui ont le goût de faire du mentorat, autant que les gens qui démarrent en affaires, puis qui ont le goût de savoir par où commencer.
Mais on sent votre énergie, là, au téléphone, comme ça. C'est une histoire percutante et surtout, vous arrivez à fonder deux entreprises. Vous êtes oui. à la tête de deux entreprises. Peut-être qu'on pourra en parler à davantage. Vous avez créé Mac Québec et Niviti,
oui.
Qui sont dans le monde du web, ce monde qui était plus inclusif pour vous.
Oui.
Parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005?
Oui, en fait, moi, j'avais, pour préciser, j'ai un deck en graphisme.
Ah oui.
Moi, j'ai démarré mon entreprise un an avant de rentrer au cégep.
Mm.
Et dans cette période-là, j'ai démarré Mac Québec en 2005, une communauté d'utilisateurs de produits Apple. Ça, c'est un site web collaboratif, communautaire. Ça n'a jamais fait vraiment d'argent, mais ça a été la meilleure école depuis mes débuts en affaires. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris sur le terrain.
Ouais.
Et dans le fond, j'ai appris à grandir au travers de ça. Et on est venu aussi par la suite Niviti pour me spécialiser dans la diffusion de contenu qui vise à développer les compétences entrepreneuriales des individus. J'ai aussi créé un espace de coworking au travers de ça qui s'appelle Espace Niviti.
Ah oui, et qui est un espace accessible.
Comment?
Qui est un espace accessible.
Oui, un espace de coworking, de location de travail, tout ça.
Donc, mais donc, qui est accessible aussi pour...
Qui n'ont pas de bureau et qui veulent venir ici, peuvent venir louer un espace de travail.
Donc, c'est un espace accessible aussi aux personnes en situation d'handicap qui seraient en fauteuil et tout. Est-ce que ça va jusque-là?
Oui, quand même accessible. Vraiment pas de problème avec ça.
Wow! Bon, ben bravo. Donc, vous avez non seulement fait du chemin sur le web, mais maintenant vous inspirez, vous fédérez des entrepreneurs comme vous. Est-ce que vous travaillez avec d'autres entrepreneurs en situation d'handicap?
Si, il y a d'autres entrepreneurs. En fait, je n'ai pas compris votre question.
Oui, excusez-moi. C'est vrai que je parle trop vite, peut-être.
Ah, c'est pas grave.
Non, mais c'est important. on est à la station pour être compréhensif, généralement. Donc, Niviti, est-ce que c'est un espace de co-travail où il y a d'autres entrepreneurs en situation de handicap?
Non, ben en fait, c'est pas nécessairement des entrepreneurs avec des handicaps en particulier. C'est tous des entrepreneurs normales. Mm-hmm. Mais c'est accessible aussi pour des gens qui ont peut-être des difficultés et tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est juste que ça n'a pas à donner en tant que tel qu'il y en ait qui viennent à cet espace-là.
Bon, c'est bien. Mais vous êtes quand même porteuse d'inclusion parce que les gens voient à quel point vous êtes une entrepreneure sans pareil. Écoutez, oui, Como Claire, vous nous inspirez beaucoup. Je veux rappeler aux gens que pour se procurer le livre, il est possible de visiter le www.kimauclair.ca/livre. On peut d'ailleurs trouver d'autres informations sur votre site, c'est bien ça?
Oui, effectivement. Donc, on peut l'acheter en ligne pour l'instant.
Parfait. Kim Auclair, merci d'être passée à l'émission.
Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Au grand plaisir de vous lire. Donc, merci, Kim Auclair. Donc, vous le savez, cette émission n'est pas possible sans une équipe extraordinaire. Mais avant de parler de l'équipe, j'ai envie de vous dire que toutes les informations pertinentes et sur les organismes que vous avez entendus aujourd'hui, y compris sur le curateur public, seront disponibles sur notre page d'Accès libre. Peut-être cette page que vous fréquentez déjà, elle est repérable au canal m.vusezvoix.com. Donc, c'est un rendez-vous. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et même sur Twitter. Je veux remercier Louise Vien, notre amie en ondes, et Christiane Campagnan pour avoir permis de tenir cette émission. Ici Benoît Racette, on se parle la semaine prochaine, ou on s'écoute, ou on s'entend, ou on se signe, c'est comme on veut. Espérons qu'on fera d'ici là un véritable accès libre.